Merci. Alors, très rapidement, pour rappeler, moi je suis maître de conférence en géographie à l'Université d'Artois, anciennement doctorant de l'Université Paris-13 et du laboratoire Pléiade, et je suis toujours associé, je suis chercheur associé au laboratoire Pléiade. La présentation que je vais vous faire, en fait, est liée à une thèse que j'ai soutenue en décembre 2017. Et qui partait sur la ceinture verte de la région Île-de-France. L'idée de cette présentation, c'est de vous montrer comment la photographie a été mobilisée durant ce travail. En gros, je vais articuler ma présentation en trois temps qui reprennent, en fin de compte, trois temporalités et trois usages de la photographie liée à ces trois temporalités de la recherche, et une finalité hein, qui était d'articuler les problématiques écologiques et sociales au sein des espaces de nature. On reviendra sur le terme de nature. Donc en ceinture verte d'Île-de-France. Un premier temps qui est celui du terrain, un second temps qui est celui des données, de leur collecte, de leur traitement. Enfin, le dernier temps, celui de l'analyse. Et donc, à chaque étape, j'ai utilisé la photographie de manière assez différente. Alors, moi, je m'inscris dans la catégorie des photographes amateurs. Et en géographie, on utilise assez spontanément, classiquement, la photographie. Donc, ça me paraissait logique de le faire. Et je n'avais pas forcément, au fur et à mesure de ce travail de thèse, comment dire, conscientisé, formalisé, réfléchi à ce que ça voulait dire d'employer la photographie. Et là, du coup, en préparant, ça m'a permis de me repencher un petit peu là-dessus et de voir les logiques à l'œuvre quand on fait de la recherche en géographie dans le cadre d'une thèse et quelle place prend la photo. Avant de commencer, bah, une petite carte quand même. Géographie. La ceinture verte de la région Île-de-France, je vous en montre ici les délimitations, hein, qui est un espace entre deux, entre le cœur d'agglomération et entre la couronne rurale. Je vous ai mis en rouge où on est actuellement, l'île Tanneuse, donc qui est juste en dehors. Bon, l'espace de ceinture verte, je vais en trois mots, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement un projet d'aménagement que la région Île-de-France avait initié au début des années 80 pour lutter contre l'étalement urbain. Sauf que son projet était assez original, en ça que c'était dès le départ, ça incluait des zones bâties. Et vous voyez que d'ailleurs, ça inclut une large part de l'agglomération parisienne et notamment toutes les villes nouvelles. Bon, ça n'a pas marché pour diverses raisons. Ça n'a jamais eu d'appui réglementaire, notamment, hein, et politiquement aussi. La région Île-de-France a décidé de chercher d'utiliser d'autres outils, notamment les trams vertes et les connectivités écologiques pour répondre à ces enjeux de préservation des zones agricoles, forestières ou semi-naturelles. J'ai plus particulièrement étudié trois terrains. Donc, l'un situé ben, dans le prolongement de la ligne H, pour ceux qui connaissent, et ceux qui ont plus de vers la plaine de Pierrelaye, la vallée de l'Oise et la forêt de Montmorency. Un second terrain qui était centré sur la vallée de Chevreuse et notamment le parc naturel régional. Et un dernier terrain en plaine de France, centré sur la commune de Gonesse. Ville et à proximité de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc toujours hein, dans ces contextes d'entre-deux. Voilà, pour le cadre de recherche et le terrain. Donc, la photographie, ben, ça a d'abord été le temps du terrain, puisque je vous expliquerai un peu en quoi a consisté mon travail ensuite. Donc ça a été l'occasion déjà d'appréhender ce terrain, mais aussi et surtout de recueillir des informations paysagères, mais pas seulement, vous verrez. Et en fin de compte aussi, puisque je passais mes journées dehors, une manière de flâner aussi qui fait partie du travail de terrain quand on est géographe. Et du plaisir aussi. Du terrain. Alors, appréhender un terrain sur le plan paysager, c'est-à-dire, alors moi, peut-être pour positionner le contexte de recherche, donc géographie, et plus spécialement un champ de la géographie qu'on appelle la biogéographie, qui consiste à se saisir de données floristiques, ou faunistiques d'ailleurs, mais dans le cas de la flore, pour en étudier la répartition, l'organisation dans l'espace. Donc mon objet d'étude, c'était la végétation. L'entrée paysagère allait donc de soi, puisqu'il s'agissait de comprendre comment fonctionnait cet espace d'entre-deux qu'était la ceinture verte, et quel type de milieu on y trouvait, et en réponse, quel type de mise en valeur politique, environnementale était appliquée par les pouvoirs publics. L'idée étant de voir les décalages, ou de lier en tout cas des enjeux politiques avec ces enjeux écologiques. Qui dit végétation dit forcément saisonnalité. Donc j'ai eu une fenêtre assez précise pour aller sur le terrain et procéder à ce qu'on appelle des relevés botaniques pour identifier la végétation, donc entre mai et juillet, et où j'ai dû finalement anticiper j'avais pas forcément finalisé l'approche méthodologique de mon terrain. Mais le temps avançant, il fallait que je m'y rende. Et quand je dis que je n'avais pas forcément finalisé l'approche méthodologique, c'était notamment autour de ce que c'est qu'un territoire, de ce que c'est qu'un paysage, et qu'est-ce qui constitue ce territoire, qu'est-ce qui constitue ce paysage. Et au final, je dois faire des relevés botaniques, mais je les fais où? Vous avez vu que c'était grand, que les terrains que j'ai retenus étaient grands, donc il y a toute une appréhension du paysage qui fait partie du terrain où, en fait, on apprend et on comprend en voyant, en observant. L'image que vous avez là, je suis face à ce paysage-là, qui est pas très loin d'ici, hein. On est sur la commune de Taverny, plutôt sur le versant rural, comme vous pouvez constater. Et donc, je suis en vélo, j'ai mon matériel pour collecter la flore, mais je vais où? Donc, il faut comprendre le paysage. La photographie, donc là, je l'ai utilisée classiquement dans ce qu'on appelle des points de vue, des panoramas, pour sur le moment me confectionner une base de données pour la suite, pour la reprendre, et puis peut-être aussi identifier des formations végétales. Ce qu'on appelle une formation végétale, c'est la végétation qui contribue au paysage, en fait, par des espèces qui dominent. Donc une prairie, une forêt, une haie, etc., sont des formations végétales. En s'inspirant notamment d'une certaine manière d'appréhender le paysage, qui est celui de l'écologie du paysage. Alors, l'écologie du paysage, c'est une discipline qui a été fondée par un géographe, mais qui a, au final, été surtout développée dans le champ de l'écologie, et qui consiste à comprendre comment un paysage fonctionne et permet aux espèces, floristiques ou animales, de se déplacer, de rencontrer des barrières, etc. Et le vocabulaire que cette écologie du paysage emploie tourne beaucoup autour de ce qu'on appelle les éléments du paysage. Et c'est assez pratique, finalement, pour repérer là où se rendre et identifier ce qui contribue à l'allure du paysage. Vous le voyez là sur la photo, hein, donc premier en numéro 1, une prairie, en numéro 2, un système de haies, en numéro 3, bien l'arrière-plan forestier, et cet arrière-plan forestier lui-même est entrecoupé de trous. D'autres parties forestières. Alors à partir de là, à partir de cette analyse photographique, il s'agissait de se rendre sur les éléments identifiés et de procéder à des recueils d'informations paysagères, des sites étudiés, de choisir un lieu et de procéder à un relevé botanique. Alors, je ne vais pas revenir sur la méthode, je le dirai peut-être si vous voulez dans la discussion, Mais là, on est donc, vous voyez que le numéro 2 que je vous ai montré là, c'est ici. Et je vais me servir donc de la photographie là pour marquer, identifier mon site en rapport avec des entrées qui me permettent de qualifier le paysage, le type de formation végétale, la stratification de la végétation, le degré d'anthropisation, la topographie, l'ouverture du paysage. Autant de catégories qui permettent de tirer des typologies. In fine, de tirer des typologies. Vous verrez qu'après, je vous montrerai que ça me servira aussi de mémoire, la photographie, finalement un nombre de relevés trop important pour garder une vision claire dans l'esprit, hein, puisque au final, j'ai compilé 252 relevés botaniques, donc 252 lieux étudiés. Donc là, la photographie pour recueillir ces informations paysagères. Si je continue hein, dans ma photo, là, donc j'étais en 2. Si je continue, là, maintenant, je passe au numéro 3. Vous voyez qu'on change d'ambiance. Là, je passe au numéro 4 avec donc une photographie qui cherche à appréhender du mieux possible la manière dont la végétation s'organise. Hein, avec des nuances qui parfois vont me conduire, dans les cas notamment des photographies forestières, à prendre des photos quand je rencontre des nuances. Couvert forestier, par exemple, s'ouvrant en raison d'une clairière, la présence d'une mare, tous ces éléments-là jouant sur la végétation, son allure, son type. Donc, même si j'avais identifié un espace comme étant un site de relevé botanique, ce site peut comporter des nuances, et donc je multipliais les photos pour être sûr de garder en mémoire toutes les spécificités de ce site. Je ne vous l'ai pas fait là, mais là, typiquement, hein, ce genre d'endroit de forêt, qui de loin, vous voyez, ont une allure assez homogène, en fait, une fois qu'on est à l'intérieur, c'est assez complexe et difficile de délimiter précisément un secteur d'investigation. Bon, je ne rentre pas dans les détails. C'est évidemment plus simple avec une prairie, puisque là, la limite est plus marquée. Alors, donc ces photographies m'ont permis de constituer une sorte de base de données, une sorte d'atlas que j'ai assez peu exploité dans ma thèse, mais qui était présent en annexe, et qui, vous le voyez, autour d'une carte, qui était une carte d'occupation du sol, délimitait les secteurs étudiés et représentait chacun de mes relevés botaniques, avec un code, hein, qui était les premières lettres du lieu. Là, on est en pleine de France, donc GFS, c'était Goussainville. Et Goussainville 1, Goussainville 2, Goussainville 3, etc. GSS 1, GSS 2, GSS 3. Et donc là, ce type d'atlas, en fait, ça me donne, l'idée, c'est de donner un aperçu territorial, en fait, de la variété des paysages sur un territoire donné. Et d'un seul coup, comme ça, de pouvoir en visualiser les différentes facettes. Donc là, j'en avais mis deux, j'avais identifié donc trois terrains, mais sur ces trois terrains, il y avait une douzaine d'entités territoriales plus petites. Donc voilà, hein, sur le terrain, la constitution de ces informations paysagères. Et puis pour finir, dans les interstices de mes relevés botaniques, les trop forts moments de chaleur et les moments de pause, des moments de flânerie, mais des moments de flânerie qui n'étaient pas si, comment dire, déconnectés, merci, de ce que. D'autres éléments plus sensibles, peut-être de recherche, puisqu'en fin de compte, en se posant dans l'herbe, on observe, on contemple et on mobilise du coup toute une culture de l'image qui va venir finalement guider aussi la prise de photographie sur le terrain. De photographies que je n'ai pas forcément utilisées, quoique celle-ci je l'ai faite, mais qui font écho hein, bah, forcément à des choses qui sont classiques, qu'on a en tête et qui vont nous parler, hein, être assis à côté d'un champ de coquelicot, bah de fait, la photo, on l'a fait parce qu'on a l'idée de ça, quoi. Alors, il se trouve que j'ai utilisé cette photographie ensuite pour parler d'autre chose, puisque coquelicot est une espèce caractéristique des cultures, on appelle ça des espèces commensales des cultures. Elles ont beaucoup pâti des insecticides, etc. Et donc, c'est un indicateur de milieu quand même relativement préservé. Mais sur le moment, quand je prends la photo, moi, c'est pas du tout ça que j'ai en tête. Donc ça, c'est plus classique. Et puis, dernièrement, on en parlait ce midi, j'ai constaté comme ça, en me baladant, en furetant dans les bibliothèques et les librairies de photographie, un retour de l'esthétique de la friche. Là, j'avais trouvé ça sur Internet, alors ça c'est en Chine. Et en fait, comment d'un seul coup des paysages qui sont désordonnés, déstructurés, sous l'œil des artistes, vont retrouver une forme d'esthétique qui n'a pas encore passé le cap des politiques publiques. Hein. Quoique, ça commence à changer un peu, avec on parlait des friches et des ouvrages d'Audrey Muratet, notamment, qui a. Dans le champ de l'agglomération parisienne, beaucoup contribué à revaloriser ces milieux-là. Mais du coup, des photos comme ça qui vont venir en me disant, tiens, moi, je vais faire pareil. Bon, ça marche ou ça ne marche pas, mais enfin bon, en tout cas, ça occupe quand on a des petits moments de pause. Et puis finalement, on l'utilise quand même après. Et c'est un à côté qui, sur le moment, paraît gratuit, mais après coup, tu peux être réutilisé et qui dit quelque chose du regard géographique aussi. Alors, le temps des données maintenant. Alors, la photographie, elle intervient aussi maintenant de manière beaucoup plus pragmatique pour trois choses. Identifier la flore, constituer une base de données botaniques et puis analyser les résultats statistiques. Je travaille sur la flore, donc je vais mobiliser la photographie pour collecter des informations à côté d'échantillons que je ramasse et que je mets dans des sacs et dont je fais des herbiers, qui s'abîment. Se froisse, qui se déchire, donc la photographie c'est un bon moyen de conserver l'image de la plante dans son état naturel et de compiler des infos. Alors celle-ci je vous la montre pas par hasard parce qu'en fait je suis pas biologiste, hein, je suis pas écologue non plus, je suis géographe, donc je me suis beaucoup appuyé sur la morphologie des espèces pour les identifier. Sauf que quand il n'y a pas les fleurs, c'est parfois très compliqué. Donc durant un mois j'ai croisé cette plante sans savoir ce que c'était. Bon, mais du coup, j'avais fini par la prendre systématiquement en photo, sans la nommer. Jusqu'au jour où je suis arrivé un mois plus tard, et hop, les fleurs étaient sorties. Et d'un seul coup, je pouvais comparer dans les ouvrages plus facilement ce que c'était. Et dialoguer, du coup, dans des photographies que je trouvais en ligne. Là, je vous donne le site Tela Botanica, mais j'ai surtout utilisé des fours papier pour comparer visuellement ma photo avec les photos que je voyais. Et finir par conclure et trouver le nom des espèces en question. En l'occurrence ici, c'est la Circé de Paris, qui est une petite herbacée, des sous-bois frais, hein, des boisements, des alentours de l'agglomération parisienne, de la France. Voilà. Donc un travail d'enquête grâce à la photographie pour identifier des plantes et, in fine, se constituer une petite base de données botaniques dans mon ordinateur. Qui me permettait d'y revenir ensuite. Alors, avec des choses, là, c'est pas un bon exemple, parce que là, on ne peut pas se tromper. Hein. L'ophrys abeille, qui est assez facile à identifier et qu'on ne peut pas confondre. Mais bon, elle est jolie, donc ça m'avait assez frappé. Et l'idée aussi, la plupart du temps, je ne le faisais pas toujours, de mettre un élément pour se figurer l'échelle. Un doigt, parfois un pied, d'autres fois un stylo dans la prise de vue photographique pour justement avoir en tête les proportions. Et parce que ça fait partie de l'identification, hein, la taille des fleurs, la taille des feuilles, la taille des tiges, etc. Donc d'avoir un repère sur la photo qui permet de se figurer les choses. Alors ça, c'est un projet inabouti. À un moment, je me suis amusé comme ça à me dire, tiens, je vais me faire une flore de la ceinture verte de France. À la manière des botanistes. Mais bon, c'est un gros travail et puis ce n'était pas la priorité dans ma thèse. Donc j'avais commencé, puis je ne l'ai pas terminé. Et en constatant d'ailleurs qu'il me manquait des photos, je n'avais pas pris les photos, par exemple, des espèces les plus courantes et celles que j'identifie le mieux. Là, je prends par exemple le cas du noisetier et du bouleau verruqueux, le bouleau que vous connaissez tous. Ben, je ne l'avais pas photographié puisque de fait, je le connaissais et je le reconnaissais facilement. Donc, j'ai commencé à faire ça, ce n'est pas terminé. Si j'ai du temps, ce qui m'étonnerait, je le ferai. Et pour en faire quoi, je ne sais pas bien. Bon, une sorte de portrait finalement de la ceinture verte, puisqu'il y a bien des fleurs de la Seine-Saint-Denis ou des fleurs du Val-de-Marne. Sur des entités administratives qui n'ont aucun sens, du point de vue des milieux, pourquoi pas faire une fleur de la ceinture verte? À voir. Donc, ensuite, donc ça c'était la constitution d'une base de données touristique qui m'était utile à moi-même, mais que j'ai aussi mobilisée dans la thèse hein, pour parfois illustrer des catégories d'espèces qui seraient des espèces emblématiques de certains milieux. Donc dans ma thèse, j'ai parfois des petits encarts comme ça où je vais donner des exemples de plantes qui poussent dans les milieux humides, dans les milieux secs, etc. Donc j'ai mobilisé comme ça, avec parcimonie, parce qu'en fait j'en ai des centaines, voire des milliers, peut-être pas des milliers, mais enfin beaucoup, de plantes. Alors après, quand je suis là donc dans les données, le temps des données, toutes ces données botaniques, elles ont fait l'objet d'un traitement statistique. Mes relevés, mes relevés, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais mes relevés ont fait l'objet d'une. Enfin, j'ai rentré dans un tableur Excel tous mes relevés, je leur ai associé toutes les espèces que je voyais associées à chaque relevé. Et l'idée de l'analyse statistique multivariée dans ce cas-là, c'est de faire des rapprochements entre les relevés, voir ceux qui se ressemblent et ceux qui sont dissemblables. C'est ce que fait très bien, par exemple, l'analyse factorielle des correspondances, où sur un graphique, vous avez projeté ici en rouge mes 252 relevés. Et ce que fait la statistique, c'est qu'elle va identifier par la co-occurrence des espèces, le fait qu'il y en a une, qu'il y a des relevés qui mobilisent des espèces en commun, d'autres relevés qui, au contraire, n'en ont aucune en commun, bien tout sur le graphique, ça va se voir. Mais sauf que moi, j'ai donné les codes à mes relevés. Là, dans le tableau qui en a été expliqué, je vais me retrouver avec des indices du style GSS1, FRE12. Qu'est-ce que c'est qu'FRE12? Je m'en souviens plus. Je sais que ça a été pris sur la commune de Frépillon. C'était mon deuxième relevé de Frépillon, mais à quoi ressemble le paysage? Là, j'ai remobilisé les photos, justement, pour me refigurer et refaire des rapprochements par l'entrée paysagère, même si c'est la flore qui me. Faire sur le plan statistique, finalement mes relevés, ils ont lieu quelque part, ils sont situés, et c'est là qu'intervient l'analyse géographique et qui permet d'avoir une approche sur l'organisation de la flore. Et c'est en revenant à la photographie que j'ai pu faire des rassemblements de mes relevés. Donc voilà pour ce temps de la donnée. Alors, un dernier temps arrive qui est celui de l'analyse. Et là aussi, la photographie va revenir, réemployée, pour faire une forme de synthèse. Quand je dis faire le portrait d'un territoire, c'est une forme de synthèse, en quelque sorte. J'ai identifié tel territoire, voilà pourquoi. Pour aussi m'en servir de manière un peu plus critique sur le fait de déconstruire les discours, donc d'accéder à une interprétation. Et enfin, pour essayer d'en tirer des conclusions sur des liens qui existent entre dynamique naturelle, sociale. Donc, faire le portrait, concrètement, ça consistait en quoi? Eh bien, dans ma thèse, j'ai proposé ces pages, c'est un A4, hein, je sais pas, mais c'est sur la page en A4, sur un territoire, sur un terrain, pardon. Là, l'entrée territoriale, c'était celui des atlas que j'ai exploité. Là, c'était par exemple sur mes trois terrains, j'ai fait trois planches photographiques. Ça, c'est le terrain Vallée de l'Oise, Montmorency, Plaine de Pierlet, de sélectionner six photos que je jugeais représentatives des différentes facettes paysagères et d'en faire un petit commentaire qui permette d'expliquer pourquoi je l'avais retenu. Bon, là, c'est le cas de la plaine de Pierlet et Bessancourt. Qui était très caractéristique de son délaissement, de situation de marge informelle, et où Là, je ne le fais pas forcément puisque j'ai un propos général sur ce qu'on voit, mais pas, ou par ailleurs, je pourrais aussi découper la photo. En premier plan, on voit, au second plan, on voit, en arrière-plan, on constate, de manière paysagère, mais aussi pour dire, pour donner la substance territoriale qu'il y a derrière, les activités, les usages. La photo, elle dit ça de ça. Donc ça, c'était un premier moment de présentation. Alors, après, je m'en suis servi aussi pour déconstruire, j'appelle ça la déconstruction du discours oriental, mais c'est en gros, c'est-à-dire pour mettre en perspective ce qu'il était dit de ces paysages et de cette flore dans les projets d'aménagement, et ce que moi, je constatais en étudiant la végétation, la flore. Est-ce que ça correspondait? Est-ce qu'au contraire, c'était déconnecté? Et si ça correspondait, à quel prix? Est-ce qu'il y avait des convergences pour que ça se produise comme ça? Alors là, je vais vous montrer un travail que j'ai prolongé et qui n'était pas fait dans la thèse, que j'ai prolongé suite à une sollicitation d'Anaïs Marshall sur un article qui devrait
Sortir
paraître,
bientôt.
sortir dans Écogéo, la revue Écogéo, où en fait j'ai poussé un peu plus loin la lecture de la photographie par la flore. Vous avez là une friche qui est en plein milieu de la plaine de Pierrelaye, donc cet vaste espace délaissé qui fait l'objet d'un projet de replantation d'un boisement, parce qu'on est dans un secteur très pollué depuis de longues années, pollution aux métaux lourds dans les sols, qui a du coup complètement gelé la valorisation d'un territoire de plus de 2000 hectares, hein, qui entre-temps, du coup, depuis 30 ans, il ne s'y passe plus rien, et a été réapproprié par des activités informelles, dépôt de déchets sauvages par les artisans, campement de gens du voyage et de Roms illicites. Bref, un espace qui est sorti du champ des dynamiques métropolitaines et qui constitue un angle mort, en fait, des communes, des 7 ou 8 communes qui constituent ce territoire. Bon, n'empêche qu'il s'y passe quand même des choses sur le plan de la végétation, et d'où des campagnes de relevés botaniques. Bon, pour remettre dans le contexte, hein, je vous cite Manuel Valls, quand il était Premier ministre en 2015. La création de la forêt de Pierrelaye sera emblématique de cette démarche de développement durable. La plaine doit devenir un nouveau poumon vert de la métropole. Depuis, les intentions n'ont pas changé. Hein, la nouvelle majorité, tant régionale d'ailleurs qu'au niveau national, continue de soutenir. L'État ne soutient pas financièrement, mais a reconnu le projet comme étant d'intérêt national, notamment dans la logique du Grand Paris, forêt du Grand Paris. Donc, vous avez une structure qui porte ce projet. Bon, d'accord, donc nouveau poumon vert, on va virer tout ça, on va replanter une forêt. Bon, mais en attendant, est-ce que c'est si moche que ça? Est-ce que par-delà les déchets et les roms, qu'est-ce qui discrédite ce paysage? C'est vraiment la flore? Est-ce que c'est pas un poumon vert? Est-ce que c'est pas développement durable? Donc, la flore, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah, sur cette photographie, par exemple, vous allez voir qu'on a des espèces qui vont être caractéristiques de ces milieux perturbés, mais tout à fait locaux. On a une flore, ce qu'on appelle endémique, qui n'est pas d'ailleurs, qui est censée pousser là parce que c'est là où elle trouve le plus d'opportunités pour pousser. Donc les suronnois, le sureau qui est une espèce locale du bassin parisien caractéristique, une strate herbacée dominée par les orties. L'ortie, qui est une espèce très anthropophile, alors qui pour le coup est un peu plus cosmopolite, mais voilà, qui est caractéristique de tous ces secteurs agricoles, urbains, de toutes ces marges. Et en arrière-plan, vous voyez un bosquet d'érables, sycomores et de lierres, l'érable, sycomore et lierre, pareil, une espèce locale, à l'aise dans des contextes très, très, très urbanisés, ou en tout cas très anthropisés. Bon, mais tout ça, c'est disqualifié et ça va être replanté. Je suis allé un peu plus loin, là je suis sur le parc de la Patte d'Oie à Gonesse, sur un ancien site d'enfouissement des déchets qui a été requalifié en parc. Donc, avec un discours qui prône la biodiversité fait partie du patrimoine de la ville et l'ouverture du parc de la Patte d'Oie est un pas de plus dans l'amélioration du cadre de vie des Gonessiens. Au total, la ville va désormais compter 200 hectares d'espace vert. Bon, vous avez vu tout le registre patrimoine, biodiversité, cadre de vie, espace vert. Donc tout le discours qui vient ensuite se réapproprier un espace Mais si on regarde la végétation, bon, à gros traits, parce qu'en fait, l'espace est plus hétérogène que la simple photo que je vous montre, mais en tout cas, c'est un boisement du secteur que j'ai parcouru. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on va retrouver nos surrenoirs, qui étaient ceux de la plaine de Pierrelaye, c'est logique, hein, c'est les mêmes substrats, c'est la même histoire, c'est le même contexte. On va retrouver nos érables sycomores au premier plan, que j'avais déjà évoqué. Une strate herbacée dominée par les clématites et les orties. La clématite, elle n'était pas présente dans la photo d'avant, mais elle était présente en plaine de Pérès. C'est une liane qui va pousser dans tous les secteurs où même vous avez des chantiers, des travaux ou des choses qu'on va laisser un peu repartir comme ça spontanément. La clématite est très à son aise. Et un arrière-plan de lierre et de frêne. Le frêne, comme l'érable sycomore, est une espèce qu'on qualifie de ruderale, c'est-à-dire qui pousse sur les secteurs perturbés, de sol remanié, très anthropisé. Mais vous voyez, donc, deux contextes végétaux qui sont assez similaires, mais qui, en fait, auxquels on va pas attribuer la même représentation. Pour des raisons, évidemment, qui ne sont pas écologiques, mais qui sont des raisons sociales et de mise en valeur territoriale. Alors, pour terminer, finalement, ce que montrait la thèse, c'était une hybridation des enjeux écologiques et sociaux. Pour illustrer ça, je vais vous montrer ici, là, on est en Vallée-de-Chevreuse, sur le parc naturel régional de la Vallée-de-Chevreuse, avec une photographie d'un espace qui s'appelle le bassin de Coupière, sur la commune de Gif-sur-Yvette. Bassin de Coupière, pourquoi? Parce que c'est un bassin de rétention en cas de crue de l'Yvette. Et c'est maintenant depuis une vingtaine, trentaine d'années. À une époque, on faisait des bassins enterrés en béton. C'est terminé. Maintenant, on essaye de mêler les fonctionnalités pour dans des cas de contraintes pour que ça serve à différents usages. Donc, c'est une zone d'intérêt écologique à conforter dans la charte du PNR, de la Haute Vallée de Chevreuse. Et donc, ça, c'est la partie enjeu écologique. La partie enjeu sociaux, elle intervient où? Bien, ici, sur Yvette, pas n'importe où, on est dans les marges, mais c'est là qu'on voit que la notion de marge, ça ne veut pas forcément dire que c'est délaissé, que c'est abandonné, que c'est pauvre. Il y a aussi des marges choisies, voulues et même encouragées, parce qu'à l'écart. Si on prend une statistique simple, le niveau de vie médian à Gif-sur-Yvette, il est 32 938 euros, quant à Pierrelaye, je vous montre avant, il est à 19 000 euros. Et on irait vers Gonesse, on descend encore, hein, vers 14 000, 15 000 euros. Donc là, vous voyez ces enjeux sociologiques et écologiques qui vont se percuter. Et ça se voit dans le paysage et ça se voit dans la flore. Et donc la photographie, là, le montre, avec donc prairie humide, qui est les prairies humides ont beaucoup souffert, hein, d'urbanisation, mais depuis de longue date, hein, depuis des siècles. Parce que voilà, il y a toute une histoire autour de la maladie, autour de ces zones-là, mais qui, depuis la résurgence des discours environnementaux, la valorisation de la biodiversité, font l'objet de préservation, à juste titre, hein, parce qu'ils sont rares. Et effectivement, on a donc tout ce vert plus profond que vous voyez, c'est une espèce qui va donner cette couleur-là, qui est la lèche. Il y en a plusieurs de lèches, mais notamment une, la lèche à ampoule, qui est une espèce de lèche assez rare à l'échelle de l'île de France, classée comme rare par les flores régionales. Et qui va donc marquer la zone. Plus ensuite, hein, tout un cortège de fleurs, plutôt peu communes, là je vous en donne une, mais qui font un peu l'agrément des lieux. Bon, mais une fois passée cette caractéristique écologique qui retient l'attention, ben on va voir aussi l'anthropique. Tout le premier plan que vous voyez, hein, qui est ce secteur un peu grillé, parce que c'était une année canicule, c'est en 2015, la température a un peu monté. Et en fait, c'est une autre graminée, enfin, pas une autre, une graminée qu'on trouve là, qui est le fromental, qui est très courant de toutes les promenades près de pelouses, de sentiers, voilà, qui s'adaptent très bien à la présence des fauches, de l'humain, etc. Et là, en fait, vous avez une promenade plantée qui fait le tour avec des peupliers. Avec en arrière-plan le rebord qui fait l'objet d'un aménagement avec des bancs, des lampadaires, on ne les voit pas. En arrière-plan, donc la forêt, ça c'est la forêt de. Ah, j'ai oublié le nom. Bref, c'est un bois communal, hein, de la commune de Gif, qui vient donc agrémenter le paysage. Et la bande de verdure que vous voyez là, qui est parfaitement assimilée au paysage et qu'on repère pas comme ça, ben c'est quoi ? Ben c'est tout simplement tous les interstices urbains et les jardins qui vont créer en fait une forme d'homogénéité paysagère, une carte de verdure pavillonnaire. Je prends ma photo, donc vous avez vu, je suis en direction nord-ouest. 75 mètres derrière moi, j'ai eu le RB. Hein, on est à la station Bruxelles, ou Gif, je ne sais plus. 100 mètres, allez, mettons derrière. Par-delà la barrière de végétation et des interstices urbains, vous avez une route départementale qui en fait prolonge toute la vallée de Chevreuse et qui va ensuite vers Chevreuse. Donc en fait, vous avez un paysage comme ça qui va mixer tout et perturber finalement la lecture qu'on a des choses. Bon, alors pour terminer, parce que je vois que je suis à 4 minutes en plus, juste la conclusion, c'est que la photographie finalement de la plante au territoire, dans ce jeu d'échelle qui est cher aux géographes, elle est présente partout. Elle est au service du regard géographique, elle est au service de la méthode géographique, et elle est au service d'une lecture transversale, écologique, sociale, politique de l'espace.
Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Ouais, bien sûr. Alors, on a quelques minutes pour des questions. Non, finalement, pas le temps, on a eu un temps constructif de parole. Non, je vais commencer. En fait, j'ai beaucoup aimé la remarque que tu as faite sur la question des coquilles courtes. Enfin, je l'ai trouvée hyper intéressante. Parce qu'en fait, ça nous donne l'idée que la photographie ici, c'est comme une sorte de. Elle a doublé un peu ton regard. Et ton regard était d'humain, était attentif en fait, à autre chose, à saisir autre chose. Et en fait, alors, on parlait tout à l'heure de reconduction de photographie, qui était de reprendre au même endroit. Alors là, c'est tout à fait la même chose, mais finalement, il y a un double regard qui était le tien et celui que tu as eu après dans une autre temporalité. Et qui t'a permis, en fait, quand même, de te servir de cette photo comme un indice de lecture écologique et de formation paysagère, alors que tu avais un regard esthétique.
Donc, ouais.
Enfin, c'est hyper intéressant au sens où ça a changé la fonction de la photo. Il y a un biologiste, Stéphane Jégoul, qui utilise le terme d'exaltation pour un organe en disant que, par exemple, au début, les plumes d'un oiseau, ça servait à la thermorégulation et puis ensuite, c'est devenu un moyen de voler. Et là, on a un truc qui est un peu une exaltation depuis la fonction esthétique de la photographie jusqu'à une fonction d'indice scientifique. Enfin, bah, et je me dis que c'est. Voilà, très intéressant, et ça faisait écho aussi à d'autres choses dont on avait parlé dans la présentation. Donc, c'était moins une question qu'une remarque. En fait,
après, c'est le terrain, quoi. Qui, en gros, je trouve que c'est l'intérêt. L'importance du terrain en géographie, c'est que tu y vas pour une raison, et que finalement, il se passe plein de choses. Quoi.
Ouais, de la rencontre.
Alors, moi, je fais de la phytosociologie. Donc, la sociologie des plantes, donc il y a des rencontres. Il n'y a pas trop besoin de réciprocité, c'est bien. Les plantes n'attendent rien en retour, mais oui, il y a un côté comme ça, rencontre avec un paysage.
Tu as présenté à un moment une grille de photographie. Justement, je voulais savoir quels étaient les principes de sélection en fait, de ces images. Est-ce que des critères, finalement, est-ce que la culture visuelle aurait pu rentrer dans la sélection? Parce que, par exemple, il y a un certain nombre de chemins qui sont présents. Donc, est-ce que ces chemins qui sont plutôt dans l'axe de la prise de vue, plutôt à gauche, ont un lien scientifique avec ta recherche? Est-ce qu'ils expriment finalement l'histoire de terrain que tu as développé? Ou est-ce qu'il y a finalement des critères
scientifiques? Non, c'est en fait que dans des paysages agricoles, l'agriculture intensive, la végétation spontanée qui avait retenu mon attention est rare, et elle se loge sur les bords de chemin. Et du coup, bah, je prends un chemin parce que en fait, c'est pas le. Si, je prends un chemin, mais finalement, c'est la végétation sur le côté qui m'intéresse.
Ouais. Mais il y a le choix de montrer ce chemin en vrai.
Parce que parfois, le chemin en entier, c'est le cas de celui-ci quand il est couvert d'herbe. Tout le chemin constitue la zone de relevé. Bon, là, c'est moins vrai, là, c'est pas côté.
Merci.
Là, c'est tout le chemin. Là, c'est tout le chemin. Là
aussi, ouais. Donc, c'était dans la photo, c'était vraiment voilà où j'ai fait mon relevé botanique. En fait.
Et à quel point les considérations techniques, à quel point ces photographies sont détaillées pour rentrer dans l'image et identifier des formations digitales
Bon, moi, je ne suis pas du tout technique avec la photo. Moi, j'avais un appareil numérique, un Canon 500. Donc, vous pouvez jouer sur la taille finalement des photos. Et je m'assurais de pas en prendre des trop petits justement pour pouvoir zoomer au cas où. Et c'est ce que j'ai fait en revenant là à l'interprétation que je vous ai montré par plan. Le zoomer, mais en fait, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est de la clématite. Donc, pouvoir quand même aller jusqu'à nous, discerner les espèces.
Ça
s'avère
entre zones, en fait.
Ouais.
Remplacer l'imperfection de l'œil.
Zoomer. Ouais.
Mais non, parce que finalement, quand on voit la procédure d'identification de la plante en sous-bois, qu'il a fallu la ramasser, la confronter à une technologie botanique, est-ce que les photographies précédentes, finalement, quelles informations elles donnent sur l'identification des essences
Aucune, elles n'ont pas servi à ça. J'y reviens après, notamment par rapport aux espèces dominantes, c'est-à-dire qu'ils vont marquer le paysage, parce qu'on va les voir dans le paysage. Mais je ne m'en suis pas du tout servi de la photo pour collecter de la donnée en vue du traitement statistique. Le relevé de l'année, c'est in situ qui fait tout. C'est mon carnet, en fait. Là, de celle-ci
c'est pour identifier les dominantes.
Finalement, je n'ai pas beaucoup utilisé dans la thèse. C'était en annexe et c'était pour présenter une forme d'atlas quoi, de mon territoire. J'ai identifié le territoire de la plaine de Calais-Bessancourt. J'ai fait 23 relevés. Ces relevés correspondent à des éléments marquants du paysage. En regardant la page, voilà l'idée qu'on peut se faire de la plaine de Calais-Bessancourt.
Donc là, ça dépasse la note. C'est vraiment c'est de la prise de notes visuelle que tu as sorti de la classe.
Ouais.
Tu avais un grand nombre de photos à trier, à sélectionner.
Oui, en fait, genre là, sur les 23 relevés, j'ai 23 relevés. Après, je peux en avoir 3 à 4 par relevé. Donc, je vais choisir celle du relevé qui me semble la plus représentative de l'ambiance paysagère. Je vous ai pas montré, mais j'ai fait un petit travail. Je suis revenu à plusieurs saisons. Et j'ai mis des planches dans ma thèse sur en revenant au même endroit en hiver, au printemps, à l'été, à l'automne. J'ai pris 4 photos. Et donc j'ai des planches comme ça qui donnent l'évolution.
C'est un peu une méthode qualitative. En fait, pas de statistiques. C'est un peu d'observation fine d'un espace délimité.
C'est qualitatif.
C'est qualitatif, c'est ça. Un peu de
photographie. C'est qualitatif, ouais. C'est ça. J'essaie de retrouver ces planches, mais je les retrouve pas. J'avais un commentaire qui allait avec.
Et donc, c'est la reconduction.
Ah, c'est ça.
C'est la reconduction à partir exactement du même lieu, comme on peut faire dans les observations sur la fin du
paysage. Ça faisait ça. Alors. Non, mais c'est une histoire de Mac en fait, qui fonctionne par.
Vas-y, ouais, on l'a aperçu. De l'autre côté, je pense. Voilà, là c'est bon.
Bon, alors c'est pas exactement le même lieu, mais enfin, si c'est le même endroit, mais à la dizaine de mètres près, c'est pas tout pareil. C'est plutôt, en fait, là j'étudiais finalement la formation de forêt, comment elle évolue par rapport à une formation de la forêt domaniale. Vis-à-vis des boisements résiduels, c'est l'idée de montrer qu'en fait, le cortège floristique est plus riche d'une saison à une autre dans les forêts privées abandonnées que dans les forêts domaniales qui ont une relative pauvreté finalement d'une saison à l'autre. Donc là, j'avais un propos pour interpréter.
Interrogation, remarque, c'est bien, on peut tous. C'est comment le terrain en fait conditionnerait une certaine forme de photo et un retour en fait comme une certaine photo réelle, ce qui n'est pas nécessairement visible sur le terrain. Et je m'explique un peu, ce qui m'a frappé, c'est les photos que nous avons faites, ces photographes américains qui étaient les premiers à faire la photo de couleur, etc., et qui prenaient la photo en voiture, en mouvement, etc. Et moi, il m'est arrivé la même chose, j'ai dû faire un terrain à la Zélias, etc. Et je fais exactement comme aujourd'hui. Et en fait, ça donne à voir cette forme de photo qui est exactement pareille, des photos floues, des photos qui apparaissent, des capots de voiture juste devant vous. Enfin, sur le plan esthétique, non, rien. En fait, ça donne à voir beaucoup de choses qui ne sont pas dans la photographie, à savoir que la ville états-unienne, elle est basse, elle est très peu praticable à pied, donc on la parcourt en voiture. Que dans le Nevada, au mois de juin, c'est comme le cas à Las Vegas, la chaleur est écrasante. Que, à l'occasion, la ville américaine est peut-être nombreuse. Et que, en fait, voilà, en fait cette forme de photo-là, elle nous apprend beaucoup plus de choses que le simple cliché en lui-même. Et c'est une interrogation qu'on a vu chez Canalis sur les grands ensembles aussi, en disant, mais systématiquement, les grands ensembles, en fait, sont mais sans habitants, en fait. Donc, cette absence d'habitants, donc cette forme de photo qui est très particulière, on voit une forme d'organisme, etc., bah, nous montre aussi tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas montrable, tout ce qui n'est pas photographiable, et tous les tabous qui peuvent y avoir. Donc, je pense que c'est des choses intéressantes.
Je pense que dans la photographie documentaire, il y a une réflexion sur le fait de produire des documents d'expérience aussi. Ouais. Nous, cette photographie, elle ne représente pas seulement des morphologies paysagères, enfin, la géographie dans toute leur spécialité, mais aussi une forme d'expérience de celui qui a procédé à des photographies, notamment d'avoir une capacité de lecture de ce qui échappe au visuel en tant que tel.
Bon, ben, je crois que c'était le mot de la fin. On va s'arrêter sur ces considérations. Merci beaucoup.
À tous. Merci.